www.leurville.ch.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Tout devient politique en fait, tout est politisé. Oui, mais je pense que c'est presque normal quoi.
Pour moi, tout ce qui est diversité est positif.
C'est vrai qu'on n'est pas forcément adepte de l'émission.
Ça m'intéresse pas parce que le niveau musical des musiques proposées par les pays ne reflète pas le vrai niveau dans les pays.
Pas du tout. J'ai jamais eu de télévision parce que j'arrive à m'occuper autrement.
Bonjour Jean-Marc Richard, nous sommes à la radio sur LFM jusqu'à 13h et vous aussi sur Carac 3 avec la télé. Donc.
Absolument, on s'occupe à double comme vous pouvez le constater et c'est très intéressant de voir que quand on parle de l'Eurovision, les gens parlent de tout, de musique, de télévision, de spectacle et de show. La question du jour c'était Eurovision top ou est flop? Alors pour les tops, c'est clairement le show, pour les flops, c'est clairement le vote. Pour ceux qui pensent que c'est un flop l'Eurovision, c'est parce qu'ils sont convaincus que ça ne reflète rien, que c'est trop politique. On n'aime pas le style musical, c'est trop copié, je cite. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, le top, c'est Nemo et le flop, c'est Nemo ». Et qui ne s'est pas expliqué sur cette vision des choses. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Pour celles et ceux qui pensent que c'est top, c'est la diversité et le côté positif du show qui vient en première place très clairement. Voilà, les tops, les flops. Donnez-nous un peu votre sentiment sur notre répondeur ou simplement par écrit sur le WhatsApp 079 844 00 77. Top ou flop?
Vous d'abord, avec Valérie Augier.
Ça va Valérie?
J'en ai perdu ma voix.
Oui.
Attends.
Un verre d'eau, s'il vous plaît, pour Valérie.
J'ai quelque chose.
And finally, our 12 points go to Switzerland.
Ça fait des souvenirs, non?
Oui, mais c'est-à-dire, ça fait surtout au moins 30 ans qu'on attendait un 12 points. Non, c'est pas vrai. C'est John Steers qui était un des tout premiers à obtenir un 12 points. Puis alors après, il y en a eu énormément pour Nemo. Je me souviens très bien que les speakers qui annonçaient les 12 points, ils faisaient pas, ils disaient rien d'autre. Ils faisaient « oh, oh, oh ». En plus, tout le monde pensait que c'était Nemo, évidemment, parce que dans la fin de la chanson, ils faisaient ça. Donc, c'était, ouais. Alors les 12 points, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on en a eu énormément pour notre invité qu'on aura tout à l'heure, Zoé Mé, qui est là, qui a fait un excellent résultat du jury l'année passée.
Alors, Eurovision top ou flop, c'est le thème du jour. Eurovision top ou flop, Sophie Assutine.
Alors, depuis dimanche, des milliers de fans ont rejoint Vienne pour la 70e édition du concours musical de la chanson. La capitale autrichienne sort le grand jeu pour accueillir le télécrochet le plus suivi de la planète. Plus de 170 millions de téléspectateurs à la télévision et en ligne. L'année passée à Bâle, l'audience avait même atteint un record avec 3 millions de spectateurs de plus que l'édition précédente. Là-bas, on ne déroule pas le tapis rouge, mais turquoise cette année. Et la cérémonie d'ouverture a vu défiler 35 délégations. Des festivités jusqu'au 16 mai sur fond de boycott.
Car si le concours se veut apolitique, l'Eurovision n'échappe jamais vraiment à la géopolitique.
Eh bien non, plus d'un millier d'artistes et de groupes ont appelé au boycott en raison de la présence du candidat israélien. Sa participation suscite une vive controverse en lien avec la guerre à Gaza. L'Islande, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie boycottent le concours en capitale autrichienne en guise de soutien. Le concours traverse ainsi l'un des plus importants mouvements de contestation de son histoire.
Et une nouvelle polémique s'est invitée juste avant l'ouverture.
Le candidat israélien Noam Betan pourrait bien tirer son épingle du jeu avec son titre partiellement en français, Michel. Sauf que la chaîne publique israélienne Kan a reçu un avertissement de l'organisation en cause des vidéos promo où le chanteur encourageait ses fans à voter non pas une, mais 10 fois pour lui, soit le maximum autorisé par téléspectateur. Une publication qui tombe un peu mal alors que les règles avaient déjà été durcies après la précédente édition.
Et côté suisse, c'est Véronica Fusaro qui portera les couleurs helvétiques.
La chanteuse défendra la Suisse avec Alice, un titre qui parle d'abus de pouvoir sur les femmes. Alice représente celles qui subissent des violences, visibles ou invisibles, victimes d'un amour obsessionnel et malsain. Une chanson pop avec de solides accents rock.
Et ça peut marcher une chanson aussi sombre?
Alors, Véronica Fusaro ne figure pas parmi les grandes favorites, mais la délégation suisse y croit. Et il faut dire que sa vraie force, c'est la scène. Plus de 600 concerts en Suisse et à l'étranger. Des passages à Glastonbury Festival, au Montreux Jazz Festival ou encore Gurten Festival. Alors, entre paillettes, géopolitique et chansons engagées, l'Eurovision reste-t-elle une fête populaire ou le miroir trop kitsch ou un peu kitsch de tensions bien réelles? À vous d'abord d'en parler.
Merci Sophie Vassutine.
Oui, très intéressant, effectivement. Et la plupart des messages qu'on a reçus déjà maintenant disent en substance c'était mieux avant, il y a 20 ou 30 ans. C'était le top, maintenant c'est trop politique. Pour moi, l'Eurovision, c'était quand même mieux avant. Et à l'époque, c'était une fête de regarder l'Eurovision et encore une joie parce que notre maman nous achetait le 45 tours du gagnant. Voilà, c'était mieux avant et on va voir ce qu'en disent les gens dans la rue.
Ça m'intéresse pas parce que le niveau musical des musiques proposées par les pays ne reflète pas le vrai niveau dans les pays. Par exemple, je connais aucune personne, moi je suis de France, je connais aucune personne qui a passé à l'Eurovision de français que j'écoutais par exemple.
J'ai eu regardé quand c'était en Suisse, mais sinon pas spécialement.
J'ai entendu parler vite fait, mais après j'ai pas plus regardé que ça. Enfin, j'ai vu par exemple qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné, Bilal Hassani, si je dis pas de bêtises, enfin. Et voilà.
Pas du tout. J'ai jamais vu de télévision, parce que j'arrive à m'occuper autrement.
Bonjour Zoémé, merci d'avoir accepté d'être là autour de cette table. Vous prouvez à vous seul qu'il y a une vie après l'Eurovision, puisque vous venez de sortir un nouveau single, puisqu'il y a eu ce titre avec Stéphane Eicher. On va parler de tout ça, la vie après l'Eurovision. Vous allez nous dire aussi pourquoi vous étiez lancé à l'époque dans cette aventure, les mémoires, les bons souvenirs, et puis surtout, comment vous voyez votre avenir. Merci d'avoir accepté Zoémé, qui a représenté la Suisse, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'année dernière, avec succès, puisqu'elle a terminé dans les 10 premiers, et qu'elle a réussi à glaner la deuxième place du jury, ce qui est considérable, compte tenu du fait que Zoé chantait à la maison, qu'en général, les gens se disent, bon, voilà, ils ont déjà organisé, les Suisses n'auront pas encore leur donné des voix pour l'année prochaine. Voilà, 079-844-0077, top ou flop pour l'Eurovision. Jeudi.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Et donc c'est l'un de ces sujets de prédilection, il faut le dire quand même. Jean-Marc Richard, Eurovision top ou flop, on en parle jusqu'à 13h avec notre invité, l'artiste Zoémé.
Oui, c'est vrai, l'artiste Zoémé, parce qu'il y a une vie avant l'Eurovision, puis une vie après. Et là, on parlera de cette vie après. Mais cette aventure, comme ça, avec un peu de recul, il y a une année, vous gardez quoi de tout ça?
Plein de choses, je garde plein de choses. C'est vrai que l'Eurovision, c'était une aventure qui est très intense. J'ai beaucoup appris sur moi en tant qu'artiste, en tant que moi, comme personne. Et le public, le partage, les émotions, c'est tout ça que je garde avec moi.
Quand vous étiez dans le concours, vous n'êtes jamais dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là?
Ah mais plein de fois. Parce que c'est vrai, justement, il y avait une vie d'artiste avant l'Eurovision et j'ai toujours été une artiste qui a fait toutes les étapes. Je suis passée par toutes les petites scènes, j'ai fait les plus grandes scènes. Je dirais vraiment, j'étais une vraie artiste parce que des fois, on a l'impression que les artistes qui passent à l'Eurovision, c'est pas des vrais artistes. J'avais vraiment une vraie carrière comme ça. Et puis c'est vrai, de tout à coup se retrouver dans un format de télévision, ça change. Donc il y avait plein de fois, je me suis dit waouh.
D'autant plus que vous avez fait quelque chose que personne avant vous n'avait fait à l'Eurovision, seul, avec une seule caméra. C'est-à-dire, alors qu'il y en a 15 en général, ou 20, là, Zoé avait choisi une seule caméra.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on nous avait dit qu'on était un peu fous. Ils ont dit, mais maintenant, c'est vous qui avez vraiment construit toute cette belle scène. Et c'est vous, la Suisse, qui nous dites, on n'utilise rien du tout de tout ça. On veut juste une seule caméra, une seule lumière, c'est tout. On a dit, oui, c'est exactement ce qu'on veut faire.
Mais alors, au final, c'est plus impressionnant avec une seule ou avec toutes?
Je dirais que ça reste très impressionnant de toute façon. Mais en tout cas, cette performance-là, elle a vraiment permis à ce que je puisse vraiment être qui je suis.
Et c'est vrai. Et on a tous et toutes apprécié ça.
Et ça fait la vraie différence, on le dit souvent concernant l'Eurovision, mais il y a les artistes qui participent à l'Eurovision et qui intègrent leur univers dans l'Eurovision. Et à l'inverse, il y a ces artistes qui ne sont que dans l'univers Eurovision.
Voilà, et Zoémé, eh bien, intégrer son univers et amener quelque chose dans l'univers Eurovision. Et ce sera difficile de faire dans le visuel quelque chose d'aussi pur et proche de l'artiste pour la suite. Voilà ce que pense Jacques de l'Eurovision.
Ce que je pense de l'Eurovision, c'est un concours en fait un peu abstrait. Et puis c'est un peu de la géopolitique, parce que les gens qui votent pour le voisin d'à côté, et puis c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Moi, je pense que ce serait bien de le diffuser à la radio, plus des groupes que les pays. Ils participent au national pour pouvoir voter, même si on peut pas voter dans son propre pays. À côté, on vote, et à la fin, je pense que c'est pas le meilleur qui gagne.
Alors, nous avons Nicolas Tanner au téléphone. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nicolas Tanner qui commentera tout à l'heure la demi-finale, celle de jeudi aussi avec Victoria Turian pour la RTS. Mais Nicolas Tanner qui est là depuis au moins 20 ans à l'Eurovision et depuis 15 ans aux commentaires. Alors, Nicolas va nous dire au téléphone, je ne sais pas dans quel état, parce que quand on fait l'Eurovision en général, on est hyper fatigué parce qu'on dort 3-4 heures par nuit tellement ça bosse. Mais va nous dire au téléphone les tops et les flops. Voilà, Nicolas, on vous écoute.
Alors moi, dans mon souvenir, un des plus grands flops de l'Eurovision, ça reste la campagne suisse de 2007, DJ Bobo, Vampire Are Alive. Tout le monde en Europe disait « la Suisse va gagner l'Eurovision ». Et quand on est arrivé sur place à Helsinki, en Finlande, eh ben, c'était la catastrophe totale. Et on s'est tout de suite rendu compte que la Suisse ne gagnerait pas. Et elle ne s'est même pas qualifiée en finale. Moi, je trouve un des tops assez intéressant, c'est la chanson italienne de 2021, juste après le Covid, Maneskin. En fait, quand ils ont gagné au festival de San Remo, peu de gens pariaient sur cette chanson. Ils ont fait une remontada historique pour arriver premier des parieurs. Et c'est vrai qu'ils ont gagné haut la main. Et puis, on sait la carrière que le groupe et Damiano, le chanteur, a fait par la suite.
Nicolas, nous sommes en direct aujourd'hui avec Zoémé. Vous êtes avec nous au téléphone. Vous avez envie de lui dire un petit mot ?
Oui, pour moi, ça reste un souvenir vraiment extraordinaire. Et ça reste pour moi l'une des plus belles chansons que la Suisse a proposées à l'Eurovision.
Merci beaucoup.
C'est gentil.
Ouais, c'est
merci
vrai.
Nicolas.
Et on le pense. Nicolas, alors, il est d'une grande sincérité, mais on le pense toutes et tous. Effectivement, c'est une des plus belles chansons. Puis alors, après l'Eurovision, on va en parler dans un petit moment, parce qu'on se dit, quand on a participé à l'Eurovision, qu'on a été comme ça, deuxième du jury, qu'on a fait un aussi bon résultat pour la Suisse dans les 10 premiers, quand on est là, qu'est-ce qui se passe après ? On va se poser la question parce qu'il se passe quelque chose, on le sait, mais comment on rebondit aussi, si j'ose m'exprimer ainsi ? Parce que ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas toujours. 079 844 0077, faites comme Jacques, comme Nicolas, dites-nous vos tops ou vos flops.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Zoémé, notre invité pour évoquer l'Eurovision jusqu'à 13h. Top ou flop, c'est le thème du jour.
C'est marrant parce que quand on parle d'Eurovision, on entend beaucoup de nostalgie. C'est chez certains d'entre vous. Et puis beaucoup parlent évidemment de cette dimension qui est trop politique aujourd'hui. Évidemment, on fait référence à tout ce débat autour de la présence de la télévision israélienne. Et j'insiste bien, de la télévision israélienne, parce que ce qu'il y a de particulier à l'Eurovision, c'est que c'est jamais un pays qui est invité, mais une télévision. Ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que l'UER explique qu'ils ne veulent pas exclure Israël, mais que parce que c'est la télévision et pas le pays. Voilà, ça c'est un petit détail. Mais là, on va écouter ce qu'en pense Jean-Pierre, qui lui aussi trouvait un peu mieux avant quand même.
À l'Eurovision, autrefois, c'était une émission que je trouvais sympathique et qui permettait aux spectateurs et amateurs de variété que l'on peut être, de voir ce qui se faisait dans les pays environnants. Presque tous les artistes chantent en anglais. Avant, ils chantaient dans la langue de leur pays. Et puis, en plus de ça, l'Eurovision n'a plus d'euro que le nom, puisqu'elle s'ouvre à des pays qui, à mon avis, ne font pas partie de la communauté européenne. Enfin, bref, ça a perdu son ADN et c'est une émission que je ne regarde plus.
Zoé, on se pose toujours la question, nous, quand on suit ce concours, est-ce que après c'est difficile ?
Ça peut être difficile. Comme ça peut être facile. Je dirais, c'est vraiment, tout est possible. Moi, en tout cas, je voulais vraiment continuer à directement genre, me remettre dans le travail, écrire des nouvelles chansons, faire des festivals, faire une tournée de club, toutes les choses que j'ai faites depuis l'Eurovision. Parce que pour moi, c'était très important de justement montrer, mais moi, j'aime la musique, j'aime créer, et ça continue après l'Eurovision. Donc, ça peut être facile si on met le travail.
Ouais, il faut bosser et puis surtout, il ne faut pas se reposer sur ce qu'on a pu vivre, surtout le succès qu'on a eu.
Non, parce que l'Eurovision, c'est vrai que ça permet de la visibilité, mais après, je veux dire, ce n'est pas une carrière durable qui se construit juste avec un événement comme ça. Donc il faut vraiment, il faut continuer et puis montrer qu'il y a plus qu'une chanson.
Et on vient d'entendre la chanson avec Stéphane Eicher. Très belle chanson, hein, Valérie, vous qui connaissez la musique.
Et ce qui est surprenant, c'est que Stéphane Eicher s'est aussi mis à la portée du duo. C'est-à-dire qu'on entend cette voix plus travaillée que sur son dernier album, où il a beaucoup épuré aussi.
Alors Stéphane Eicher, c'était très chou. Parce qu'en fait, Valsa 2000, la chanson, c'est moi qui l'ai écrite. Et je lui ai envoyé la chanson en disant « Stéphane, je suis vraiment fan et puis j'adore ta voix, j'adore ta manière de raconter les histoires. Est-ce que ça pourrait être une option pour toi de la chanter avec moi ?» Puis il m'a dit « Normalement, j'aime pas trop être invitée en duo parce que je le fais très rarement, mais cette chanson-là, je la trouve tellement belle que j'ai envie d'accepter cette danse. » Parce qu'au final, Vals, c'est une danse. Puis il m'a dit « J'ai envie de danser avec toi et puis j'ai envie de non seulement accepter la danse, mais vraiment aussi... enfin, comment dire, devenir une petite partie de ton univers à toi. » Donc c'est vrai qu'il a ouais, c'est vraiment je sais pas quoi dire, c'est vraiment ça m'a aussi ému d'entendre la chanson, parce que pour moi c'est pas évident.
Eh bien, nous allons maintenant écouter ce qu'en pense le peuple, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire vous.
C'est vrai qu'on n'est pas forcément adepte de l'émission.
Moi, je trouve que ça devient trop politique et que, ouais.
Ce n'est pas du boycott politique, c'est des questions musicales plutôt. C'est un des shows qui me parle moins que d'autres styles de musique.
Pas vraiment, c'est juste depuis qu'il y a Nemo, je me dis, bon, tiens, ça s'est quand même modernisé, mais voilà.
Alors on peut dire, effectivement, ça s'est modernisé, ça a beaucoup évolué, et peut-être que vous nous dites un peu si vous avez des flops ou des tops. Tout à l'heure, on a entendu Nicolas Tanner se souvenir de la douloureuse chanson de DJ Bobo, parce que c'était vraiment douloureux, parce que c'était extraordinaire, parce que tout le monde, en Finlande, pensait que la Suisse allait gagner, et donc il y avait même des gens de la SSR qui venaient sur place, de l'Arena et autres qui venaient pour pouvoir organiser le concours, et on va pas en finale, et ça c'était très dur. Bon, avec Zoémé, on va parler un petit peu de cet univers qui est le sien dans quelques instants, mais vous nous donnez toujours votre avis. Flop ou top, ou top ou flop, c'est joli ça, hein, ça c'est, je précise, c'est Valérie qui trouve les titres, c'est magnifique.
On pourrait écrire une chanson en fait.
Oui, et alors elle, alors sans problème, ouais, je sens qu'il va se passer quelque chose hors antenne dans quelques instants pour un contrat à signer. Top flop 079 844 0077, mais je vous assure, c'est Zoé qui va chanter la chanson et pas moi.
Vous d'abord avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
079 844 0077,
signé Big Mountain.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Top ou flop, c'est le thème de cette émission consacrée à l'Eurovision, donc avec Zoémé, notre invitée.
Alors vous, vous exprimez sur notre WhatsApp au 079 844 0077. Pour vous, il y a plus de flop que de top. C'était intéressant aussi d'avoir un peu l'avis de ceux qui suivent le concours. On a entendu bien sûr Nicolas, le grand spécialiste. Puis là, on va avoir Fabio, qui est journaliste à 20 minutes et qui suit le concours, qui était à Vienne et que j'ai interviewé ce matin.
Alors je vais être un peu dur, je vais m'en prendre directement à un pays. Ce que propose la France depuis plusieurs années, chaque année on a l'impression qu'elle ressort la même boîte à clichés, on va dire. Une chanson qui parle de Paris, des « c'est la vie », des voilà qui glissent à toutes les 30 secondes. Et il manque juste, je pense, un béret et une baguette sous le bras pour compléter le tableau. Et à force, ça devient un peu caricatural. L'ambiance aussi, en général, depuis 3 ans maintenant, ça devient un peu pesant vu la situation avec Israël. On peut voir que la sécurité est omniprésente partout. Dans les tops, je dirais, ça fait plaisir aussi de voir que les gagnants peuvent avoir une véritable carrière internationale. C'est assez beau de voir qu'un concours longtemps considéré comme kitsch ou ringard est aujourd'hui capable de lancer des carrières énormes.
Ou de donner un petit coup de pouce, parce que c'est le cas. Hein, pour vous, ça a été le cas. C'est un petit coup de pouce, même si pour certaines et certains, ça a été le contraire dans l'histoire de l'Eurovision. Il y en a plein qui ont disparu après l'Eurovision. Vous, alors, ça vous a donné quand même un bon petit coup de pouce.
Oui, c'est le cas. Enfin, je veux dire, là, j'ai quand même fait une tournée de Globe qui était sold out. J'ai pu avoir des gens qui viennent me voir de partout, enfin, du monde entier. Il y a des gens qui viennent de la Pologne, de la Suède, d'Allemagne. Enfin, c'est assez fou quand même de vivre ça. Et puis, j'ai juste choisi que ça va être un coup de pouce. Donc.
C'est ça, ouais, c'est ça. C'est aussi une décision qu'on doit prendre à un moment donné. D'où votre actualité avec la sortie. Qu'est-ce qu'on dit, single aujourd'hui, on dit plus un 45 tours. Hein, c'est ça.
Oui, alors après l'Eurovision, j'ai sorti un EP d'abord qui est maintenant devenu un album. Donc il y a 8 nouvelles chansons à découvrir depuis l'Eurovision, notamment Valse à demi qu'on a écouté tout à l'heure, et puis aussi une nouvelle chanson qui s'appelle Jamais été cool.
Jamais été cool.
Oui.
Ah, bah on va en reparler tout à l'heure, parce que vous êtes plutôt cool, donc on comprendra pourquoi. On va écouter ce qu'en pensent toujours celles et ceux à qui Sarah a tendu son micro.
Pour moi, tout ce qui est diversité est positif. Ça permet d'enrichir les échanges, d'enrichir les réflexions. Donc non, c'est positif, cette diversité qui arrive.
Je l'ai regardé il y a très très longtemps. Et puis là, non, je, non. On pique des bribes, mais je ne regarde pas l'émission. Non.
Pas du tout, pas le temps. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas le temps de regarder. Ouais.
Là, ces dernières années, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé aussi. On regarde un peu moins ce genre d'émission qu'avant. Avant, j'ai eu suivi, mais sans trop suivre non plus. Donc...
Alors, il y a un Australien, enfin un Suisse qui vit en Australie, qui est véritablement le David Guetta de l'Eurovision, DJ depuis de très nombreuses années. Je crois qu'il a commencé dans les années 60, donc il n'est pas tout jeune. Alors, peut-être un peu plus âgé que David Guetta. Je ne connais pas l'âge de David Guetta. Alan, et quand il a vu qu'on allait parler des flops et des tops, ben voilà, il donne son avis.
Pour moi, l'Eurovision, naturellement, c'est une institution. C'est un voyage dans la mémoire. Ma première Eurovision était en 1961. L'Eurovision, c'est quand même quelque chose de spécial de s'imaginer qu'un show de télévision continue d'attirer tellement de monde après 70 ans. Je dois dire qu'avec les systèmes, les réseaux sociaux de nos jours, c'est devenu très difficile de continuer de faire brûler la flamme. La virulence des propos parfois est tellement négative et destructive. Les fans que j'appellerais des fanatiques, ce sont ces nouveaux pseudo-fans qui s'imaginent qu'ils ont tout droit à choisir, à décider pour le reste des spectateurs.
Voilà l'avis de Alan, 079 844 0077.
Alan, qui pourrait être le père de David Guetta. Il a commencé l'Eurovision en 61, David Guetta est né en 67.
Ah oui, c'est ça. Ah, quand même, il fait jeune, David Guetta.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Top ou flop pour l'Eurovision, c'est le thème de vous d'abord, jusqu'à 13h avec notre invité Zoé May.
Je lis les messages, à part pour Zoé où tout le monde dit top, hein, les messages sont plutôt flop hein, pour beaucoup. Alors, c'est très intéressant parce que les jeunes ont beaucoup apporté à ce concours. Aujourd'hui, par exemple, l'année dernière à Bâle et l'année d'avant, pour la RTS, c'était l'émission la plus regardée par les jeunes, l'Eurovision, la finale de l'Eurovision. C'est assez fou, hein. La moyenne d'âge était bien autour des 25 ou 30 ans. Et du coup, Dalibor, lui, fait partie un peu des fans. Il a une chaîne qui s'appelle, et vous vous en souvenez, Zoé May, c'est la chaîne 12 points. Et il a voulu donner son top et son flop. Alors, dès qu'il a vu qu'on postait un message, et c'est extraordinaire, et ce jeune garçon est juste incroyable. Il a une passion, il a l'Eurovision, même qu'il est très très jeune, c'est chevillé à son corps. Voilà, on va dire ça comme ça.
Ce que j'aime pas, c'est que ce concours devient de plus en plus commercial et que le concours s'éloigne un peu plus de ses fans, je trouve. On va pas se mentir, l'Eurovision est politique, même si dans le règlement, c'était un concours apolitique. Et il y a aussi plein d'histoires, plein de belles histoires. Il y a aussi l'Europe qui s'unit pour 3 soirées au mois de mai. Et ça, c'est magique. On voit ça nulle part ailleurs. Ce qu'il faudrait changer, je pense, c'est clarifier certaines situations et pas que l'UR fasse un peu deux poids deux mesures selon tel pays ou d'autres.
Voilà, évidemment, on reparle de cette dimension politique qui est très, très, très présente à l'Eurovision. Et je ne sais pas si le message que nous venons de recevoir en parle aussi. Un message donc que nous avons reçu sur notre répondeur. Si jamais vous cherchez Valérie, c'est le 12. Comme ça. On a des codes entre nous.
Bah 12 comme.
And finally, our 12 points go to Switzerland.
Top et flop. Je crois qu'il y a eu les deux en fait. Hein. Parfois c'était top, parfois c'était flop. Mais je pense que le danger ce serait de trop politiser et de perdre l'esprit du spectacle en fait. Hein. Parce que l'Eurovision c'est avant tout un spectacle. Qui est là pour divertir les gens. Donc si ça devient trop intello ou trop polarisé politique, ben là, on peut autant faire des albums de musique, mais c'est pas vraiment le rôle, je pense, de l'Eurovision. Bien que ça n'empêche pas d'avoir des chansons qui ont un sens et un texte, simplement. Je pense qu'il faut garder l'esprit festif de l'Eurovision. Alors voilà, c'est mon opinion. Bonne journée, à bientôt.
L'Eurovision a toujours été politique et effectivement quand on parle de politique à l'Eurovision, souvent on parle d'un pays qui est exclu comme la Russie ou la Biélorussie et d'un autre qui fait partie de l'Eurovision alors que pour certaines et certains ne devraient pas en faire partie comme Israël. Mais on oublie que les paroles des chansons sont très politiques. Ben, la chanson présentant la Suisse, c'est politique hein, de parler de violence domestique et tout ça. Donc les paroles sont très politiques aussi. Zoé, est-ce que le titre que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est politique aussi, votre titre ?
Bon, jamais été cool, le titre. Oui. Ben, je dirais qu'il est plus personnel, étant donné qu'il parle du fait que moi, je trouve les gens qui sont les plus cool, c'est les gens qui n'essayent pas de l'être. Et c'est un message qui est très important pour moi. Et je dirais que je suis une chanteuse qui est très à la recherche de c'est quoi les messages que j'ai envie de partager avec le monde. Je l'ai fait avec Voyage et j'ai aussi envie de le faire avec ce titre, Jamais été cool.
Jamais été cool. Bon, ben voilà. Bon, on a quand même le droit d'être cool, ou bien ?
Ben justement, je dis dans la chanson, j'ai jamais été cool, mais c'est exactement ça, ce qui me rend si cool. Et en fait, je veux juste encourager tout le monde qui est cool, qui m'écoute en ce moment. Ben, vous êtes cool comme vous êtes.
Ben, on va l'entendre, ce titre-là.
Ah oui, ça c'est bien. Luca.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
C'est la dernière ligne droite, donc. Et on le découvre, cet album. Il est dispo partout.
Il est disponible partout, ouais. Et puis en concert.
Alors, Valérie, deux messages vocaux sont arrivés un peu trop tard pour que je puisse les diffuser, mais je résume très rapidement. Celui de Francine, celui de Nathalie, disent en substance un peu la même chose. C'est un concours de chansons et c'est dommage, par exemple, qu'on exclue certains pays ou qu'on fasse des polémiques par rapport à d'autres parce que ce serait l'occasion de se retrouver dans la paix, alors que c'est la guerre dans le monde. Si ce concours était l'expression de la paix, ou pouvait être l'expression de la paix, peut-être que ça nous aiderait à mieux vivre. Voilà ce que nous disent Francine et Nathalie. Et puis, un dernier Vox Populi.
Christina Aguilera, tout ça, on entend tout le temps. Je crois que c'est toujours la meilleure époque. Hein. C'est plus comme aujourd'hui où c'est presque, on va dire, comment on peut dire, qu'on copie quoi.
Je pense qu'il y a une diversité qu'il n'y avait peut-être pas avant. Bon, pour ma part, ce n'est pas la première raison pour laquelle je ne regarde pas. Parce qu'il y a eu des musiques que j'ai beaucoup aimées.
Bon, tout devient politique en fait. Tout est politisé. Oui. Mais je pense que c'est presque normal, quoi.
Je regarde pas la télé. Non, très peu.
Merci Valérie. On remercie beaucoup Zoémé d'avoir été des nôtres. Merci infiniment de nous avoir un peu plus découverte.
Et puis, en concert à Crécy dans Musico Vigne. C'est un festival le 21 août prochain. Voilà.
On boit que de l'eau comme votre serviteur, je pense, à Crécy.
Musico Vigne, oui, c'est marqué dessus.
En plus.
Et Jean-Marc, vous n'allez pas partir sans ce fabuleux souvenir de l'Eurovision.
Ça me manque de ne pas pouvoir trier 37 fois, on a gagné l'Eurovision, ça c'est sûr, je vous le promets.
C'est un petit air du Thierry Roland de la finale de foot,
c'est
quand
ça.
Même.
Mais c'était ça la victoire de Nemo, incroyable. Bon, demain on va parler d'un sujet plus compliqué. Comment gérez-vous l'augmentation du coût de la vie ? Comment vous gérez cette augmentation du coût de la vie ? Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du coût de la vie ? Tout à l'heure, dans les informations, on a entendu, ça va encore augmenter du côté des assurances. Comment vous le gérez ? Dites-le nous, 079 844 0077. Merci Zoé, merci Valérie et bon après-midi.